France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Cannibal Holocaust de l'italien Ruggero Deodato. Un film très controversé et peut-être même le film le plus controversé de l'histoire du cinéma. Si l'on en croit ce qui est inscrit en grosses lettres rouges sur l'édition française du DVD de ce film d'horreur sorti en 1980. De fait, Cannibal Holocaust est à la fois très gore et très réaliste. Un film transgressif, une œuvre qui dérange. L'histoire, celle de journalistes prêts à tout pour filmer les tribus amazoniennes anthropophages. Interdit dans de nombreux pays à sa sortie, le film est devenu pour certains cinéphiles une œuvre culte dont la violence n'a d'égal que celle qu'il dénonce, tandis que d'autres en critiquent la gratuité autant que l'hypocrisie. Acteurs maltraités, violences sexistes, tortures sur des animaux, meurtres non simulés, tout a été dit sur Cannibal Holocaust, sans qu'on ne puisse parfois démêler le vrai du faux, la réalité de la fiction, la stratégie marketing de la mythologie du cinéma. Notre invité aujourd'hui, Maxime Lachaud, journaliste, essayiste, réalisateur et programmateur de cinéma. Il a notamment écrit avec Sébastien Guiraud « Reflet dans un œil mort, Mondo Movies et films de cannibales » publié aux éditions Bazar & Co. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Jeanne Maillard, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Denante, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
You'll see civilized people behaving like savages.
Peplum, western spaghetti, film d'horreur, film policier, science-fiction ou érotique. Entre les années 50 et les années 80, l'Italie produit ce qu'on appelle des films de genre, de tout genre, inspirés des grands succès hollywoodiens. Des films populaires, dont certains marquent l'histoire du cinéma, comme ceux de Sergio Leone, bien sûr, tandis que d'autres se perdent dans les tréfonds de la série B, parfois sauvés de la disparition par des amateurs avertis. Parmi eux, les films de cannibales, dont la recette est simple. Des jungles tropicales, des indiens anthropophages et du sang façon ketchup. Parmi les réalisateurs qui se sont essayés à ce genre méconnu, celui que les médias ont appelé Monsieur Cannibal, autrement dit Ruggero Deodato. D'abord figurant, puis assistant pour de grands réalisateurs italiens comme Roberto Rossellini, Deodato a réalisé quelques films plus ou moins confidentiels, avant de s'aventurer dans les jungles du cinéma cannibale. En 1977, il y a d'abord Ultimo Mondo Cannibale, un film d'horreur très violent, qui propose une vision fantasmée de peuples autochtones des Philippines, présentés comme des anthropophages obsédés par le sexe. Le film ne reste pas dans les annales, mais il convainc des financiers allemands et japonais de lui en commander un deuxième en 1979. Encore plus extrême, c'est Cannibal Holocaust. Il va faire couler l'encre et le sang et devenir, peut-être, le film le plus controversé de tous les temps.
Milan, ce matin, l'un des grands noms de la presse italienne vient d'être abattu. Walter Tobagi a été tué en sortant de chez lui par quatre hommes qui ont pris la fuite en voiture. Au même moment, à Rome, autre scène de terrorisme devant le lycée Jules César, une Vespa surgit, deux hommes tirent à bout portant sur des policiers qui montaient la garde. Sur le trottoir d'en face, une voiture ralentit, un troisième policier est blessé, lui mourra un peu plus tard. Un attentat revendiqué à la fois par l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est la première fois, c'est à noter, qu'un établissement scolaire est le théâtre du terrorisme en Italie.
Nous sommes en 1979. Comme l'atteste cette archive, l'Italie traverse depuis plus d'une décennie ce qu'on appellera les années de plomb. Une période de violence politique intense, durant laquelle des groupes d'extrême gauche et d'extrême droite, donc, multiplient attentats, enlèvements, assassinats, avec le concours trouble des services de l'État et peut-être même de la CIA. Devant sa télé, Ruggero Deodato observe la façon dont les médias italiens couvrent cette actualité tragique. Explosions, cadavres, trottoirs ensanglantés, la brutalité des reportages scandalise le réalisateur italien. Les journalistes cherchent-ils à informer ou à choquer? Certaines images sont si spectaculaires que Deodato se demande s'il ne pourrait pas s'agir de mise en scène. Il tient alors le sujet de son prochain film, le sensationnalisme médiatique.
La première partie est muette.
C'est le scénariste italien Gianfranco Clerici qui est chargé d'écrire le scénario de Cannibal Holocaust, avec comme référence les films italiens du genre Mondo Movies, dont Deodato est fan. De faux documentaires qui jouent sur le voyeurisme des spectateurs occidentaux, en leur proposant des images insolites et choquantes, venues de pays lointains. Une jungle, des tribus cannibales et des journalistes en quête de scoop, voilà le scénario de Cannibal Holocaust. Il commence avec ces mots, prononcé par un présentateur télé à New York dans la version du film doublée en français.
L'homme est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Ce qui semblait être impossible à réaliser hier est devenu courant aujourd'hui. La conquête de la Lune, par exemple. Qui de nous en parle vraiment encore? Pourtant, l'homme semble ignorer que sur notre planète, il y a encore des gens qui vivent à l'âge de pierre et pratiquent le cannibalisme. Était-ce, pour nous ramener à la réalité, que quatre jeunes Américains y sont allés pour faire un documentaire sur la vie de cette jungle? Quatre jeunes Américains pleins de courage, élevés à l'âge spatial, armés de caméras, de micros et remplis de curiosité. Quatre jeunes qui ne reviendront jamais. Mais observons-les au début de leur incroyable aventure.
Ruggero Deodato et Gianfranco Clerici imaginent un film en deux temps. Dans la première partie, le scénario suit le professeur Harold Monroe, un anthropologue décidé à retrouver la trace d'une équipe de reporters américains, trois hommes et une femme, venus filmer les tribus amazoniennes et depuis disparues. Dans la forêt, le professeur, accompagné de guides recrutés sur place, Monroe découvre la culture de la tribu des Yanomamo. Gianfranco Clerici et Ruggero Deodato s'inspirent plus précisément d'une population autochtone réelle, connue sous le nom de Yanomami, un peuple d'Amazonie présent au Venezuela et au Brésil, que le sociobiologiste américain Napoléon Chagnon a fait connaître au grand public en 1968 avec son best-seller « Le peuple féroce ». L'ouvrage, controversé pour son sensationnalisme et son ethnocentrisme, met en avant les dynamiques de pouvoir et la gestion violente des conflits dans cette tribu. Loin des clichés des films cannibales italiens des années 70, Napoléon Chagnon y évoque aussi le rite funéraire Yanomami, auquel l'ethnologue Jacques Lizot a assisté, comme il l'a raconté sur France Culture, au micro de Jacqueline Klein.
Des cris, des larmes, c'est très dramatique comme rituel. Ensuite, les os sont ramassés, pilés, conservés dans des calebasses, et puis au cours d'un rituel, sont consommés dans une soupe de bananes, soit en une fois, soit en plusieurs fois. Puisque les cendres sont consommées par les vivants, il n'y a pas de cimetière. Un cannibaliste très des os pilés dans une soupe de bananes, ça va pas très loin, et puis on ne mange que les parents. Enfin, les vrais cannibales, c'est les autres, comme disent les Indiens Yanomami, quoi, c'est pas nous.
Dans le scénario de Cannibal Holocaust, les pratiques des Yanomamo, une lettre pour les différencier des Yanomami, sont tout autres. Il ne s'agit pas d'ingérer les cendres d'un proche pour faire perdurer son esprit, mais de dévorer tout cru ses ennemis. Le professeur Monroe, qui réussit à se faire accepter par les Yanomamo, découvre, près de leur village, les squelettes des quatre reporters, ainsi que leurs caméras et leurs bobines de pellicule.
Ah ben là, il devrait y avoir du sang. Du sang.
Lorsque de retour à New York, l'anthropologue visionne des images de ce reportage, c'est la surprise. Dans l'enfer de la forêt amazonienne, l'équipe s'est montrée prête aux pires atrocités pour rapporter le scoop qui les rendra célèbres. Y compris faire passer pour un féminicide rituel la mort d'une femme qu'ils ont eux-mêmes violée et peut-être tuée. Ils mourront finalement, devant leur propre caméra, bourreaux puis victimes du cannibalisme vengeur des Yanomamo. La deuxième partie est donc un film dans le film, dont le tournage doit commencer à l'été 1979. C'est en juin et en avion que la petite équipe de Cannibal Holocaust arrive à Laetitia, aux confins du Brésil, du Pérou et de la Colombie. Oui, petite équipe, car tout petit budget, pour un tournage de 5 semaines, dont 4 dans la forêt amazonienne. Il y a là le réalisateur, Ruggero Deodato, bien sûr, une poignée de techniciens, les acteurs et les actrices, et l'actrice, il n'y en a qu'une, qui interpréteront les quatre reporters américains. Quatre ou plutôt trois, car au dernier moment, le jeune homme qui doit jouer Alan Yates se retire du projet. Carl Gabriel Work est alors recruté au terme d'un casting expéditif.
Je suis entré et il y avait un homme, un Italien, qui avait ma photo. Il a regardé la photo de cet autre gars et il a dit quelque chose comme « C'est pas mal, c'est pas mal du tout ». Puis il a dit « Quelle taille de chaussures tu portes ?» J'ai dit « Du 43,5 ». Il a dit « Ah, d'accord ». Parce qu'il avait déjà acheté des costumes. Peu importait que j'ai étudié avec Uta Hagen, l'une des plus grandes professeurs d'art dramatique du XXe siècle. Peu importait que j'ai fait trois tournées nationales de la pièce « Vol au tsunami de coucou ». Ce qui comptait, c'était la taille de mes pieds.
Carl York, Perry Pirkanen, Luca Barbareschi et Francesca Charlie, les interprètes principaux de Cannibal Holocaust, sont totalement inconnus du public. Deux jeunes comédiens donc, pour faire des économies, évidemment. Mais aussi pour faire vrai, là où des visages connus souligneraient de façon trop évidente que Cannibal Holocaust est une fiction. Car c'est là l'un des enjeux principaux de ce tournage. Ruggero Deodato, le réalisateur, souhaite que le faux reportage présenté dans le film soit crédible. Au point, espère-t-il, de tromper spectateurs et spectatrices. Laetitia, la ville où loge l'équipe, est le principal port colombien sur le fleuve Amazon, un lieu de trafic en tout genre et une porte d'entrée vers la jungle. Inaccessible par la route, c'est en 1979 une ville du bout du monde, avec son unique hôtel. C'est là que l'équipe de Cannibal Holocaust embarque chaque matin dans de grandes pirogues pour rejoindre la forêt depuis l'Amazon. L'équipe, constituée d'Américains et d'Européens, découvre alors et avec fascination la jungle, ses eaux boueuses infestées de piranhas et ses lianes tentaculaires. Elle fait aussi la connaissance de ses guides et figurants autochtones qui joueront les Yanomamo dans le film.
Bonne chance, Miguel.
On va te faire voir chez vous.
Voilà, bon an mal an, le tournage trouve son rythme et chacun se fait petit à petit aux insectes, à la chaleur tropicale et aux journées de 12 heures. Et pour certains acteurs, il est sur le tournage un animal plus gênant que le moustique. Le réalisateur de Cannibal Holocaust, Ruggero Deodato, qui exerce son pouvoir aux dépens du bien-être de celles et ceux qui jouent pour lui. Une tendance largement répandue chez les réalisateurs. Et ça ne rate pas. Francesca Ciardi, 18 ans, dont c'est le premier tournage, se voit contrainte de dénuder ses seins contre sa volonté. Et ça ne rate pas. Francesca Ciardi, 18 ans, dont c'est le premier tournage, se voit contrainte de dénuder ses seins contre sa volonté. L'acteur Carl York se souvient.
Je n'y ai pas pensé, mais c'est assez évident maintenant qu'elle ne voulait pas faire ça non plus. Elle ne se sentait pas de faire ça. Elle ne voulait pas se déshabiller devant tout le monde. Est arrivé le moment où j'ai enlevé sa chemise et j'ai essayé de manœuvrer pour que la caméra puisse la voir. Elle a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Fais pas ça !» J'ai répondu « Ruggero m'a dit de te bouger pour qu'on voit tes seins à la caméra. » Elle a dit « Mais j'emmerde Ruggero, je ne veux pas faire ça !» Et j'ai dit « Mais c'est ce qu'il veut !» Tout d'un coup, une voix a retenti, c'était Ruggero. Il lui a dit très fort et sans équivoque ce qu'elle allait faire. Après ça, quand on a refait la scène, elle a fait tout ce qu'elle était censée faire et il a eu tous les plans qu'il voulait.
Francesca Ciardi et Carl Rohr, comme les autres interprètes de Cannibal Holocaust, ne sont pas préparés à la crudité et à la violence du film. D'autant que Deodato est un cinéaste, disons, de l'improvisation et que le scénario n'est pas toujours très détaillé. Qu'en scénario il y a d'ailleurs, puisque les comédiens n'ont pas tous reçu l'exemplaire du script. Les conditions de tournage de Cannibal Holocaust, tristement banales, illustrent comment le cinéma a longtemps fonctionné et comment il fonctionne encore parfois. La toute jeune Francesca Ciardi, qui subit les blagues lourdes et les tentatives de drague d'une partie de l'équipe, vit très mal l'expérience.
Ça peut très mal tourner.
Ah oui ? Comment en arrivez-vous à ces déductions ?
L'instinct. J'ai l'impression que vos amis ont fait du bougage.
Les comédiens Robert Kerman et Carl Gabriel Work entretiennent aussi des relations houleuses avec le réalisateur. Ils lui reprochent d'aller trop loin quand il parle mal aux figurants colombiens, quand il met en scène le viol d'une femme autochtone ou quand il leur demande de tuer des animaux. Car sept bêtes ont été massacrées devant les caméras pour les besoins du film. certains ou certaines par les acteurs, d'autres par des figurants colombiens, une tortue décapitée et éventrée, un raton laveur tué au couteau, un cochon abattu d'une balle dans la tête, une tarentule, un boa constrictor tué à la machette, un singe scalpé vivant, puis un deuxième, car la première prise était ratée. Des séquences réalisées sans trucage qui horrifient une partie du casting. Karl Work, refusant d'abattre lui-même le cochon, c'est Luca Barbareschi qui s'en charge. Le chef opérateur Sergio Dofizi, lui, ne dit mot, mais n'en passe pas moins, comme il l'explique dans le documentaire Nella giungla de Michele De Angelis.
Plus tard, je n'ai pas aimé ce que j'ai filmé. Je le dis honnêtement parce que je suis contre toute forme de violence. Je ne supporte pas qu'on profite des plus faibles. Donc je ne peux pas dire que je suis d'accord avec le film. Vous allez me demander pourquoi je l'ai fait. Je le répète, c'est une déformation professionnelle. C'est comme un avocat qui défend un meurtrier. Pourquoi il le fait ? Parce que c'est son métier.
Tandis que certains acteurs s'émeuvent des violences infligées à ces animaux sur le tournage, d'autres membres de l'équipe les justifient. Le cochon, comme les singes, ont été mangés à la fin de la journée, explique-t-il, évoquant en écho la cruauté des abattoirs occidentaux ou celle des corridas.
Oui, nous avons beaucoup de chance.
Faire vrai pour choquer, c'est bien la ligne directrice que s'est fixée le réalisateur de Cannibal Holocaust. Avec le chef opérateur Sergio Dofizi, Ruggero Deodato reprend les codes des reportages de l'époque. Mouvement brusque de la caméra portée à l'épaule et pellicule 16 mm. Spectateurs et spectatrices doivent avoir le sentiment d'y être et de vivre avec les personnages les horreurs qu'ils traversent, autant d'ailleurs que celles qu'ils commettent. Le pari esthétique de Ruggero Deodato, celui de l'ultra-réalisme, rejoint ainsi les réalités budgétaires du tournage. Les techniciens doivent faire vrai avec peu. Alors quand le réalisateur demande à ce qu'on enflamme une hutte pleine d'Indiens, le chef décorateur n'imagine aucun stratagème. Il met le feu à une hutte pleine d'Indiens, sans se soucier de quelconque norme de sécurité. L'acteur Karl Work y revient.
In the jungle. It's the daily violence of the strong overcoming the weak. Jack!
So now we have this.
Il y avait cette hutte qui brûlait, pleine de gens. C'était un grand feu. Je sais à quel point ce film fait peur, mais c'était tout aussi effrayant de le voir en cours de réalisation. Peut-être même plus effrayant parce qu'il y avait de vrais humains là-dedans. Je ne sais pas combien ils étaient payés ou même s'ils étaient payés. À ce que je sache, on leur offrait juste le déjeuner. Ils ont convaincu ces gens de rester là-dedans. Et ils n'arrêtaient pas de leur crier de « rester là !» alors que la hutte brûlait. Je voulais vraiment pas être témoin de ce meurtre. Mais ce n'a pas été le cas. Tout le monde s'en est bien sorti.
Slowly in the microphone, some melody with another word. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les dessous du film Cannibal Holocaust.
Affaires Sensibles.
Rappelez-vous que c'est un premier montage.
Fabrice Drouel.
Beaucoup de choses seront enlevées au montage définitif.
Au terme d'un tournage éprouvant pour une partie des acteurs, et en particulier pour l'actrice principale, Ruggero Deodato s'attelle au montage de Cannibal Holocaust. Avec le monteur Vincenzo Tomassi et sur une musique de Riz Ortolani, le réalisateur italien divise le film en deux parties bien distinctes. La première, dans laquelle le professeur Monroe part sur les traces de l'équipe de tournage disparue, est filmée en 35 mm et montée selon les codes classiques de la fiction, champ contre champ, raccord mouvement. Le flashback de la deuxième partie, filmé lui en 16 mm, doit donner l'impression que l'on visionne les rushs du reportage filmé par les journalistes américains avant d'être tués. Des images brutes. Et c'est bien l'objectif de Ruggero Deodato, monter pour faire oublier le montage. Le réalisateur italien va même rayer volontairement les bobines avec un petit couteau afin de donner l'impression qu'elles ont été abîmées par leur séjour dans la forêt. Alors, où est le vrai, où est le faux? Où est le documentaire, où est la fiction? Ruggero Deodato espère ainsi troubler le regard critique des spectateurs et des spectatrices. Si le petit singe est scalpé vivant, visiblement sans effets spéciaux, qu'en est-il de l'amputation d'un des personnages? Si la hutte est vraiment en flammes, est-il possible qu'on ait empalé une femme sur un pieu? Une confusion des genres renforcée par l'insertion dans le montage de vraies images documentaires. Avant de visionner les bobines retrouvées dans la jungle, le professeur Monroe regarde le film précédent d'Alan Yates, le journaliste américain à la tête de l'expédition qui lui a été fatale. Et ce film-là, encore un film dans le film, n'a rien d'une fiction, comme l'explique Deodato, critique serbe d'Iran Odjanovic.
Et qu'en est-il de l'assassinat de vraies personnes dans le film? Il y a des images d'archives documentaires aussi dans Cannibal Holocaust.
Pour le réalisme du film, j'avais besoin de ça. Je les ai achetées à Londres, cette vraie image que j'ai achetée après le tournage. Je suis allé à Londres et j'ai acheté ces images d'exécution politique très fortes.
Le 7 février 1980, Cannibal Holocaust sort en avant-première à Milan, assorti d'une interdiction au moins de 18 ans. Car pour regarder le film de Ruggero Deodato sans ciller, il faut avoir l'estomac bien accroché. Amputation, viol, éviscération et décapitation se succèdent au rythme doucereux d'une bande originale à contre-emploi. Et on y croit. Certes, les costumes et les perruques viennent rappeler les limites du budget, mais le grain du 16 mm et les mouvements de caméra masquent les détails. La violence des reporters contamine le film progressivement, jusqu'à ce qu'ils finissent eux-mêmes assassinés, qui émasculés, qui lapidés, qui dévorés, devant leur propre caméra. Dans l'extrait que nous allons entendre, le professeur Monroe découvre avec horreur ces images, avant de révéler dans les derniers instants du film le message que son réalisateur Deodato a voulu lui faire porter.
John, I want this material burned, all of it.
I wonder who the real cannibals are.
Je me demande qui sont les vrais cannibales.
Malgré les critiques acerbes du Corriere della Sera, de l'Unità et de la Stampa, les principaux journaux italiens, Cannibal Holocaust hisse en Italie à la 4e place des meilleurs films de la semaine, avec 13 717 spectateurs. Mais après quelques semaines d'exploitation, un magistrat milanais, Nicolas Cerretto, ordonne la saisie des véhicules et accuse 12 personnes de diffusion aggravée de spectacles obscènes, dont des gérants de salles de cinéma, le réalisateur du film, son scénariste et ses producteurs. Une décision surprenante, car c'est plutôt la pornographie que la justice italienne combat à l'époque, et non la violence. Résultat, le réalisateur, les producteurs et le scénariste sont condamnés à 4 mois de prison avec sursis et à une amende pour avoir proposé un film contraire aux bonnes mœurs et à la morale. Quant à Cannibal Holocaust, il est interdit et donc retiré des salles de cinéma. 20 ans plus tard, voilà que le récit de Ruggero Deodato fait de ce procès dans le documentaire de Michele De Angelis, Nella Giungla.
À Milano, un terrible giudice d'assalto.
À Milan, un juge terrible a saisi le film. Il nous accusait de plein de choses, d'avoir vraiment tué des gens, en plus des animaux. Je me rappelle que le juge m'avait dit « On raconte que vous avez tué ces 4 jeunes gens ». J'ai vraiment eu chaud parce que je risquais la perpétuité. Donc, j'ai appelé celui qui était le plus proche, Luca Barbareschi. Je lui ai demandé de retrouver la trace des autres et de leur dire de ressusciter. Sinon, j'allais passer un mauvais quart.
Là, il devrait y avoir du sang. Ah non, pas encore. Ah, voilà.
Devant la cour, Ruggero Deodato doit aussi, selon ses dires, trouver que tortures et meurtres ne sont que simulés, en expliquant les trucages et autres astuces de montage auxquelles il a eu recours. Il semble tout de même étonnant que des magistrats méconnaissent à ce point le cinéma, qui est par excellence l'art des subterfuges, et qu'ils aient pu véritablement croire à la mort des acteurs. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de la vérité, d'un souvenir déformé ou d'une rumeur marketing orchestrée a posteriori, ce procès fera date dans la mythologie qui commence déjà à se construire autour de Cannibal Holocaust. Et il faut attendre 1983 pour que le film soit finalement autorisé en Italie dans une version censuré. En novembre 80, alors que le film de Deodato n'est pas sorti en Espagne, le journaliste Vicente Gracia publie un article dans Interview, un magazine à scandale. Il y raconte très sérieusement le destin tragique de 4 reporters américains en Amazonie, photo à l'appui. Des images sanglantes, qui sont en fait issues de Cannibal Holocaust, mais vendues comme un vrai reportage. Canular ou arnaque, ces photos sont ensuite proposées en France à Paris Match pour 20 000 francs, avant que la journaliste Marie-France Saura ne découvre le poteau rose. Quelques mois plus tard, le film sort sur les écrans français sans soulever les foules. Interdit dans plus de 50 pays, indique la pochette du DVD sorti pour les 25 ans du film. Un nombre sans doute exagéré, mais pour les besoins de la com. Même si Cannibal Holocaust est effectivement interdit à l'époque, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud, en Norvège, en Finlande, en Islande, en Nouvelle-Zélande ou à Singapour. Mais dans les années 80, puis 90, grâce au cassette VHS, les amateurs de films d'horreur continuent de faire vivre Cannibal Holocaust, comme le raconte le réalisateur américain Eli Roth.
Au vidéoclub, il y avait toute une série de cassettes vidéo. Et il y avait une grosse boîte avec Cannibal Holocaust dans la section des films Cannibal, avec d'autres films qui n'avaient pas de titre. Ça a été une expérience. J'étais adolescent et je ne pouvais pas croire ce que je venais de voir. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Je ne pouvais pas aller chercher plus d'informations. C'est comme ça que mon obsession pour ce film a commencé. On aurait dit qu'il avait vraiment tué des gens.
Avec les années, la réputation de Cannibal Holocaust se construit discrètement dans le secret des vidéoclubs. Film interdit, film maudit. Mais c'est sans doute l'arrivée des DVD et du téléchargement illégal qui va permettre une plus large diffusion du film. En 2001, le distributeur américain Greenhouse Releasing édite Cannibal Holocaust en Blu-ray dans une version restaurée non censurée. 21 ans après sa sortie, la curiosité autour du film de Deodato est relancée. Et puis avec Internet, les rumeurs sulfureuses qui l'entourent se répandent comme une traînée de poudre. Renforcée par les quelques interviews que donne l'équipe du film, dont le réalisateur lui-même. En 2003, Deodato raconte dans le documentaire Nella Giungla comment il aurait orchestré les ondits autour de la mort des 4 interprètes de Cannibal Holocaust.
Quand on a fait les contrats des quatre acteurs, la première chose qu'on a dite, c'est « Les gars, vu que c'est votre premier film et qu'il devrait avoir un certain retentissement dans le monde, on vous demande de signer un contrat qui dit que vous devez disparaître pendant un an, au moins du monde du cinéma. Vous ne devez pas entrer en contact avec des producteurs ni faire d'autres films ou des spots publicitaires. » Et ils ont signé le contrat.
Cacher les acteurs pour faire croire à leur mort. Et si les contrats dont parle Deodato n'étaient qu'une légende urbaine, savamment entretenue par le réalisateur lui-même? Un jeu entre le vrai et le faux, à l'image de son film d'ailleurs, pour faire parler de Cannibal Holocaust. Car dans les faits, les acteurs et l'actrice du film n'ont pas disparu du radar en cette année. En 80, Francesca Ciardi et Robert Carman tournent pour le cinéma et la télé, en Italie et aux États-Unis. S'ils n'ont pas donné d'interview à l'époque, explique Luca Barbareschi, c'est parce que personne n'a demandé à les interviewer, contrat ou pas. Jusqu'aux années 2000, Cannibal Holocaust n'a été pour eux qu'une ligne discrète dans leur CV, avant que la sortie en DVD, assortie de rumeurs relayées sur Internet, ne mette le film sur le devant de la scène. Une chose est certaine, si Cannibal Holocaust a acquis au fil du temps le statut de film culte, c'est aussi pour sa grande violence. Une violence, soit dit au passage, largement égalée depuis par des réalisateurs dont certains assument l'héritage. À défaut d'être véritablement le film le plus controversé de l'histoire du cinéma, Cannibal Holocaust oppose défenseurs et détracteurs, parfois avec virulence. Ceux qui aiment applaudissent à un pamphlet audacieux et anticonformiste contre l'exploitation touristique de l'Amazonie, la colonisation ou la guerre. Des intentions qui en vérité dépassent l'ambition du réalisateur et de son propre aveu. Antonello Gelang, le chef décorateur du film, en parle en ces termes.
Et sûrement, le fait que ce film soit stato combattuto et osteggiato en Colombie.
Si le film a été tourné en Colombie, c'est certainement parce que ces images dénoncent quelque chose. On ne peut pas dire que c'est un film contre l'Amazonie, contre les Indiens ou contre le primitivisme. Selon moi, au contraire, il y a même quelque chose de très romantique à trouver dans ces images, très âpre, très cru, quelque chose qui nous aide à aimer ces personnes.
Aimer ces personnes. Le problème, c'est que ces personnes n'existent pas. Car si Ruggiero Deodato se targue d'être au plus proche du réel, il filme pourtant un peuple autochtone imaginaire. Les femmes et les hommes des tribus dont il s'inspire et dont seraient issus les figurants ne poussent pas de grognements de bêtes quand ils mangent. Ils ne s'accroupissent pas non plus au sol pour dévorer goulûment des corps humains, sans même les cuire. Pour une partie des spectateurs et des spectatrices, cette représentation stéréotypée des peuples amazoniens est plus difficile à soutenir encore que le gore. Quant au message final du film, qui sont les vrais barbares, eux ou nous, il est perçu par nombre d'observateurs comme une tentative hypocrite de moraliser la violence. Après Cannibal Holocaust, Ruggiero Deodato réalisera encore 11 films, dont Amazonia, la jungle blanche en 1985, qui conclut sa trilogie Cannibal. Il meurt le 29 décembre 2022 à l'âge de 83 ans. Méconnu du grand public, il est pour certains cinéphiles une référence. Que l'on apprécie ou pas son style, il reste indéniable que Cannibal Holocaust est un film plus complexe qu'il en a l'air. Embrouillant les pistes entre fiction et réalité, ce faux documentaire interroge aujourd'hui plus que jamais notre rapport à l'image, à l'heure du buzz, de la télé-réalité et des fake news. Mais fallait-il, pour poser ces questions, maltraiter ces acteurs, tuer des animaux, déprécier un peuple? Peut-on vraiment utiliser la violence quand on entend la dénoncer? Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le film Cannibal Holocaust, dont nous parlons avec notre invité Maxime Lachaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, essayiste, réalisateur et programmateur de cinéma. Vous avez notamment écrit avec Sébastien Guéraud le livre Reflet dans un œil mort, Mondo Movies et films de cannibales, aux éditions Bazar & Co, livre réédité en 2024 dans une version revue et corrigée aux éditions Potemkin. Voilà. Vous vous intéressez dans votre travail à des territoires cinématographiques souvent méconnus, hein, à des films oubliés, underground, expérimentaux. Dans le cas des films de cannibales auxquels vous avez dédié un livre, qu'est-ce qui vous intéresse ?
Alors le livre, il se consacre au Mondo Movies, donc alors pour le résumer en quelques mots, donc c'était des documentaires sensationnalistes qui ont été très populaires et qui ont été popularisés notamment par le film Mondo Cane qui avait été présenté à Cannes en 1962, un film de Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi et Paolo Cavara. Et il y a eu très très vite des copies dont le principe c'était on part dans le monde entier, on va rassembler des images choquantes, insolites, bizarres, on va filmer des rituels interdits. Donc regarder Mondo Movie, c'est un peu parcourir tous les tabous des époques. Mmh. Et donc le genre des Mondo Movie a vraiment, il y a eu des centaines de copies, je vais dire dans les années 60 et 70. Et quelque part, Cannibal Holocaust, c'est l'hommage ultime à ce cinéma, tout comme s'en est la critique absolue et le film qui presque a mis fin au Mondo Movie. Après ça, il y a eu quelques exemples, mais on pouvait pas aller quelque part aussi loin que ce qu'avait fait Ruggero Deodato.
C'est intéressant parce qu'en fait, il va servir un cinéma et il va en même temps œuvrer à sa disparition finalement. C'est étonnant, hein?
Mais c'est ça, et c'est ça qui est, comme vous l'avez dit, c'est ça qui est assez fascinant avec Cannibal Holocaust, qui pour moi dépasse tous les autres films de cannibale de par son réalisme. Et de par le fait que d'un côté, Ruggero Dato le disait, c'est que il en avait marre de ce sensationnalisme journalistique, tous ces cadavres qu'on voyait à la télé, que son fils voyait ça, et ça le choquait profondément. Il voulait montrer une violence qui écœure le public, mais pour faire ça, mais il utilise cette propre violence et quelque part ses propres méthodes qu'il dénonce.
J'entends bien, mais si on prend le film au premier degré, il est totalement choquant. Parce que j'imagine que beaucoup l'ont pris au premier degré. Tout le monde n'a pas les capacités de décryptage. Et ça, c'était un problème quand même.
Bien sûr. Et en plus, dans ces années 70, il y avait beaucoup de fantasmes autour des snuff movies, des films où on aurait tué des personnes pour les besoins de la caméra, des films qui se tournaient en Amérique du Sud. Il y a un film qui s'appelle Snuff, où à la fin, en fait c'est un film qui avait été racheté, et à la fin ils avaient rajouté une séquence où une des comédiennes se faisait tuer en direct par l'équipe de tournage. Donc il y avait en plus la famille Manson, on disait qu'ils avaient eux-mêmes tourné des snuff movies, il y avait plein de mythes urbains. Et le film, il arrive à ce moment-là, et comme vous l'avez dit, au tout milieu de Cannibal Holocaust, il passe ce précédent film des reporters, qui s'appelle The Last Road to Hell, la dernière route vers l'enfer, pour l'enfer. Et donc ce sont des images réelles, sauf que dans le film, c'est présenté comme des images fabriquées.
Voilà.
Et ils disent justement que ces journalistes étaient des professionnels. Mmh. Ils savaient faire croire que c'était vrai. Mais en fait, les images sont vraies.
Oui, c'est pour ça que c'est pas facile à manier. C'est un risque quand même, par rapport, encore une fois, aux spectateurs qui pourraient prendre ça pour argent comptant, quoi.
Bien sûr, et c'est mais justement il y a une des scènes dans Cannibal Holocaust, c'est la fameuse scène de la tortue, qui est très très dure à regarder, mais qui là aussi est un clin d'œil à une des polémiques qu'il y avait eu sur le film Mondo Cane, où ils avaient filmé sur l'atoll de Bikini, où il y avait eu des essais nucléaires. Ils filment une tortue, enfin des tortues qui ont perdu le sens de l'orientation, et une en particulier qui part dans le sens inverse de la mer et qui se suicide en fait. Et là, il y a tout, évidemment, il y a eu un scandale. Pourquoi l'équipe de tournage ne la sauve pas? pourquoi il la laisse mourir devant la caméra. Et ce que disaient les réalisateurs, le chef opérateur, c'était que c'était aussi pour montrer la réalité. Ils auraient pu sauver cette tortue, mais il y en aurait eu plein d'autres qui seraient mortes.
Ah, et avec les progrès qu'on a fait en termes de regard qu'on porte sur l'animal aujourd'hui, oui. Ça pourrait plus passer, ça. Si ?
Non, pas du tout. D'ailleurs, il faut savoir que Ruggero Dato a eu 4 mois de prison avec sursis.
Oui, on l'a dit,
pour torture animale. Donc, ils avaient sorti une loi sur l'interdiction des corridas en Italie et de la tuerie d'animaux pour le spectacle.
C'est ça, oui.
Mais en même temps, quand on regarde l'histoire du cinéma, des animaux tués pour les besoins de films depuis le muet, il y en a eu beaucoup, même par des réalisateurs très respectables, dans des cinémas d'art et essai.
Mais ça n'a pas une raison pour continuer.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Maxime Lachaune a parlé de film culte pour Cannibal Holocaust. Est-ce que pour vous c'est un film culte? Et si oui, qu'est-ce qui fait que c'est un film culte?
Alors, c'est un film culte à plusieurs niveaux, je pense. D'une part, il faut dire que Ruggero Dato disait qu'il n'avait pas fait un film d'horreur, il disait qu'il voulait faire un film réaliste, selon ses termes. Et il parlait de l'influence, justement, de Rossellini, ce dont vous aviez parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est devenu un peu le prototype. Oui, c'était Sergio Leone qui avait écrit à Ruggero Deodato en lui disant « Avec la seconde partie du film, tu vas avoir de gros problèmes. »
Pourquoi ?
Parce que c'est trop réaliste.
Ah oui, d'accord, par rapport au réalisme. Ouais.
Et donc, c'est vrai qu'il a inspiré tout ce qu'on a appelé, à partir des années 90, les films de found footage. Alors, ça va de « C'est arrivé près de chez vous » jusqu'au projet Blair Witch et des tas de films d'horreur qui sont arrivés dans les années 2000, qui reprennent toujours ce principe de la caméra subjective et de l'équipe qui va mourir devant devant la caméra, avec la caméra qui tombe à la fin.
Mais est-ce que Cannibal Holocaust est le premier du genre de found footage?
Alors, le terme found footage, j'ai aussi utilisé dans le cinéma expérimental pour des bandes récupérées. Mais véritablement, cette idée des reporters qui filment leur propre mise à mort. Le seul film dont je pense, dans lequel on trouvait des idées comme ça, c'est un film de 1967 qui s'appelle La cible dans l'œil de Paolo Cavara, qui était un des réalisateurs de Mondo Cane et qui a fait une sorte d'autocritique en montrant ces journalistes reporters qui vont au bout de leur folie ramener sans arrêt des images violentes, les provoquer jusque dans le film provoquer la propre mort de sa compagne.
Vous ne citez que des cinéastes italiens. Dire que ce genre de film, c'est d'abord le film italien. Ce sont les spécialistes de ça.
Alors, pour ce qui est des films de cannibales, vraiment les grands maîtres du genre, c'est Umberto Lenzi et Ruggero Deodato dans les années 70,
Italiens,
dont on est totalement dans le cinéma italien et presque ce bis italien où dès qu'il y avait une recette qui marchait, on refaisait un peu la même chose. Donc, il créait plein de sous-genres en permanence à cette époque-là. Si on parle aussi des influences de Cannibal Holocaust, le film s'inspire aussi de ce qu'on appelait les films de jungle, qu'on trouve dès les années
30.
Dès les années 30, même le muet, notamment des Américains qui s'appellent Martin et Osa Johnson, qui, donc là on n'est pas sur des Italiens, et qui partaient dans les tribus d'autochtones comme ça, et puis ils arrivaient avec leur musique jazz, leur culture, et puis pour les besoins du film, Osa était une très bonne chasseuse, donc il tuait énormément d'animaux pour le spectaculaire, donc il y a des éléphants tués pour la caméra, etc. Donc en fait, c'est aussi une sorte de critique de ce genre de reporter de films de jungle. Et le film de jungle a eu une heure de gloire aussi dans les années 50. où là, il y en avait pas mal, des films comme Ça va être l'Africa, puis même du temps du muet, il y avait des films, chez les mangeurs de tête, les titres eux-mêmes tournent autour de tout ce fantasme du cannibale qui va manger les blancs civilisés.
Alors, les mondes de movies sont assez méconnus, finalement, vous me citez tout un tas de titres de réalisateurs qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce qu'ils ont exercé une influence sur d'autres grands réalisateurs ensuite?
Et tout à fait, et je vais dire que les musiques ont joué beaucoup dans cette influence. La musique de Cannibal Holocaust, elle est sublime, elle est assurée par Riz Ortolani, qui était un grand compositeur de Fimondo, c'est lui qui a fait Mondo Cane, dont la musique Mort avait même été nommée aux Oscars. Voilà, il a fait la musique d'Adieu Afrique, Les Négriers, a fait beaucoup de Mondo. Et en fait, cette influence, ces musiques douces sur des images violentes,
mais oui, ça
ont
ressort,
été beaucoup
hein,
récupérées. Par exemple, vous le savez peut-être pas, mais par exemple, la musique de Benny Hill ou de Téléfoot, ça vient de Mondo Movie. Récemment, j'ai regardé le film La Malédiction, la nouvelle version de cette franchise d'horreur religieuse. Et ben, dès le début, le morceau qu'on entend, c'est la musique de Mondo, faite par Ennio Morricone, quand même.
S'il vous plaît.
Et il y a des réalisateurs comme Nicolas Winding Refn, Eli Roth, qui parlait un moment.
Oui, on a cité
voilà, et qui se sont beaucoup inspirés de ce cinéma, et qui sont des fans de ces musiques aussi, et qui les citent dans leurs propres œuvres.
D'ailleurs, ça fonctionne aussi. Vous connaissez peut-être la série actuelle Squid Game, où on voit des gens partir à l'abattoir, c'est extrêmement violent, sur des musiques très douces, des musiques enfantines. Et effectivement, ça en ajoute au climat de violence. C'est assez bien vu. Toute dernière chose, ce qui est étonnant quand on regarde Cannibal Holocaust aujourd'hui, c'est qu'il évoque non seulement le sensationnalisme médiatique, bon, c'était le propos du film, mais aussi peut-être la télé-réalité, les réseaux sociaux, les violences que le mode de vie occidental exerce sur les peuples amazoniens, toujours. C'est pour ça que ça en fait un film culte aussi. Alors, très rapidement, il nous reste quelques secondes.
Oui, et je pense qu'il y a toujours eu... Quand Ruggero Deodato parlait de Mondo Cane, il disait que le réalisateur avait 20 ans d'avance, parce qu'il y avait déjà une autocritique de ce capitalisme charognard, de tout ce tourisme, ce voyeurisme malsain. Donc, bien sûr, mais lui, il a poussé un tel niveau, qui est même au-delà de la morale, qui fait que c'est vrai qu'après Cannibal Holocaust, qu'est-ce qu'on peut faire de plus extrême?
Ah ben, ce sera le mot de la fin, Maxime Lachaud. Merci infiniment.
Et merci infiniment de m'avoir invité, c'était un plaisir.
Mais je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Cannibal Holocaust, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Julien Dumont.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.